Balkania Europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. En Pologne, en Hongrie, en Slovaquie, voire en République tchèque, les gouvernements et les peuples ne se reconnaissent plus dans les valeurs démocratiques des Européens de l'Ouest. Si la crise migratoire a servi de déclic, elle est surtout le reflet d'un désir de repli identitaire des Européens de l'Est, à l'exact opposé du projet européen conduit maintenant depuis 60 ans. Sur 15 pays d'Europe de l'Est, 7 sont gouvernés par des populistes, alors que peuvent faire Paris, Berlin et les autres Européens de l'Ouest, qui prône une certaine souveraineté européenne plutôt que le retour à un nationalisme étriqué. Europe entre l'Est et l'Ouest, une fracture, c'est le titre de cette émission. Et je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour Lukas Maček.
Bonjour.
Vous êtes citoyen tchèque et depuis quelques jours citoyen français. Et vous êtes le directeur du campus de Sciences Po Paris à Dijon. Quelle est la particularité de ce campus de Sciences Po Paris, mais à Dijon ?
En fait, ce campus accueille des étudiants qui ont été admis à Sciences Po Paris et qui souhaitent enrichir leur cursus du collège universitaire, c'est-à-dire leurs premières années d'études, leur bachelor, d'une ouverture particulière sur les questions européennes et notamment sur l'Europe centrale orientale.
Alors, des étudiants français, des étudiants d'Europe de l'Est
Nous essayons d'avoir à peu près moitié-moitié, une grosse moitié d'étudiants d'Europe centrale et une moitié souvent un tout petit peu plus petite, si je puis dire, des étudiants français qui, justement, en général viennent parce qu'ils sont passionnés par les questions européennes, s'intéressent au projet européen et sont conscients du fait que cette partie de l'Europe, l'Europe centrale, est sans doute la partie de l'Europe la moins connue et véhiculant souvent le plus de clichés et d'idées reçues, et donc ils veulent creuser un peu tout
et
ça.
Ben on va essayer d'en dépasser quelques-unes au cours de cette émission. Yves Antonini, bonjour, vous êtes consultant en affaires européennes et par ailleurs président du Mouvement Européen France. Un mot sur le Mouvement Européen qu'on commence à connaître, mais pas tout le monde.
Bonjour, le Mouvement Européen, ce sont des milliers de bénévoles qui se mobilisent pour animer le débat public sur l'Europe en France, pour faire de la pédagogie, pour faire des propositions aussi, pour construire l'Europe. Ça fera bientôt 70 ans, puisqu'on va commémorer les 70 ans du Congrès de La Haye, mai 48. Et c'est de là qu'est né le Mouvement Européen International et le Mouvement Européen France.
À Varsovie, nous rejoignons Maja Zoltowska. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes journaliste et correspondante du quotidien Libération en Pologne. Et à Bratislava, nous rejoignons Pavel Salaj. Bonjour.
Bonjour de Bratislava.
Bonjour, vous êtes journaliste au site Euroactive Slovaquie. Alors, Lukas Maček, on ne doit pas réécrire toute l'histoire, mais tout de même, après 1989, la chute du mur de Berlin, et 1991, la fin de l'URSS, il y a eu un grand désir d'Union européenne de la part des PECO, les pays d'Europe centrale et orientale, qui s'est manifesté par l'élargissement de 2004, puis celui de 2007. Quelle était l'envie profonde de ces pays et de ses habitants lorsqu'ils ont rejoint l'Union européenne ?
La thématique de ce qu'on a pu appeler le retour à l'Europe était très forte, effectivement, en 1989 et dans les années qui ont suivi. C'était un des slogans importants des partis qui ont mené cette transition démocratique. Mais déjà à l'époque, ça cachait une diversité de liens, de traditions, d'attitudes par rapport à l'Europe qui était assez importante. Parce que c'est des pays qui, dans leur lien avec l'Europe, au sens l'Occident, l'Europe occidentale, sont assez différents. Entre, d'un côté, entre la Pologne, entre ce qui est aujourd'hui la République tchèque, entre la Hongrie ou la Roumanie ou la Bulgarie, par exemple, ce sont des trajectoires européennes très différentes, des degrés de proximité culturelle, politique avec l'Europe occidentale qui sont très variées. Donc déjà, il y a eu ces diversités-là qu'on retrouve un peu aujourd'hui dans les expressions nationales assez diverses, des attitudes désormais plutôt compliquées avec le projet européen. Mais fondamentalement, il y avait une volonté de s'ancrer à l'Ouest, de sortir du giron oriental, celui de la Russie, ou de l'Union soviétique encore à l'époque, et clairement s'ancrer à une dynamique occidentale.
Alors globalement, ça a plutôt bien réussi, en tout cas sur le plan économique. La croissance est soutenue, il y a une évolution générale du niveau de vie dans tous ces pays, et ça a permis quand même à tous ces citoyens une ouverture au monde, notamment à travers une liberté de circulation.
Tout à fait. Je trouve que l'élargissement de 2004, 2007, puis 2013, si on ajoute celui de la Croatie, ce sont des succès que d'ailleurs l'Union européenne a beaucoup de difficultés à, entre guillemets, vendre. Je trouve que c'est un exemple d'un grand succès qui est très sous-estimé par l'opinion publique. Et un succès qui est quand même mitigé, parce que je pense que c'était un grand succès sur le plan juridico-technique, c'est-à-dire la machine communautaire a bien fonctionné. C'est très largement un succès économique, mais je pense que c'est assez largement un échec politique des deux côtés, parce que je pense que des deux côtés, à l'ouest comme à l'est, il y a eu un déficit de pédagogie énorme et une grande difficulté à assumer ce processus, à l'expliquer, à le défendre, c'est-à-dire finalement des deux côtés c'était un peu subi comme une fatalité et de ce point de vue-là, la France est un bon exemple d'un pays où la communication positive sur l'élargissement était extrêmement faible et c'était vécu comme quelque chose de subi, trop rapide, mal préparé, ce qui est pourtant très loin de la réalité, me semble-t-il.
Oui, parce qu'il a fallu des années et des années avant que ces pays donc qui ont quitté le monde, l'univers soviétique 80, entre 80, 89, à partir de 89, et l'adhésion 2004 pour les plus premiers, 15 ans tout de même.
C'est des pays qui ont fourni un grand effort d'adaptation, qui ont pendant des années assumé un peu un rôle très inégal, maître-élève, où le maître c'était l'Union européenne et l'élève qui devait rendre ses devoirs et qui se faisait taper sur les doigts quand il les faisait mal, qu'étaient ces pays-là. Et c'est aussi là qu'on trouve, je pense, des sources d'un certain euroscepticisme, c'est-à-dire une espèce de fatigue de cette relation inégale et le sentiment que malgré tous ces efforts, ces pays peut-être ne sont toujours pas reconnus comme des membres à part entière, ou en tout cas il y a la hantise et il y a une espèce de sursensibilité là-dessus, voire parfois une paranoïa face à toute attitude occidentale qui peut être interprétée comme justement une sorte de condescendance ou de vision un peu inégale.
Alors on va revenir évidemment à ce sentiment ressenti dans les pays d'Europe centrale et orientale. Alors si cette greffe n'a pas totalement pris d'un côté comme de l'autre, est-ce qu'il faut peut-être, Lucas Matschek, faire référence à justement des références historiques pour avoir un début d'explication? À l'ouest, il y a des pays colonisateurs, à l'est, des pays qui ont été occupés, plus ou moins directement, des pays à forte tradition démocratique d'un côté et d'autres qui n'avaient pratiquement eu pas d'expérience démocratique. Est-ce que l'histoire qui n'est pas commune est importante dans l'explication justement de, on va dire, un malentendu pour l'instant?
En fait, je pense que si on regarde l'histoire de l'Europe centrale, qui est une histoire assez tragique, ce sont des pays traumatisés d'histoire. Mais en fait, si on regarde ces histoires, je trouve qu'on peut trouver autant d'arguments pour bâtir un discours positif sur l'Europe, comme justement pour montrer justement que pour la première fois dans leur histoire, ces pays accèdent à un fonctionnement des relations entre nations européennes sur un pied d'égalité et où effectivement la loi du plus fort est très fortement relativisée, dépassée, et c'est ça l'essence du projet européen. Qu'il y a aussi la possibilité de bâtir tout un argumentaire qui joue sur les peurs, sur les paranoïas, sur l'assimilation de l'Union européenne à un nouvel empire qui a à nouveau une force d'occupation qui décide de ces pays là sans qu'ils leur demandent leur avis. Et ce que je remarque, c'est que ce narratif négatif a été très bien bâti et très bien exploité dans la communication politique par des forces, pour faire simple, anti-européennes dans ces pays, et qu'au contraire, les partis pro-européens ont été assez médiocres, pour ne pas dire mauvais, dans la construction, dans l'affirmation de ce discours positif sur l'Union européenne. Et il me semble aussi qu'il y a eu des maladresses du côté européen qui n'ont pas forcément facilité la tâche des pro-européens en Europe centrale. Enfin, je vais donner un exemple. Par exemple, le grand allié de l'Europe centrale dans l'imaginaire collectif, ce sont les États-Unis, pour des tas de raisons historiques. Néanmoins, il y avait un différent entre ces pays et les États-Unis, c'est la question des visas. La Commission européenne n'a pas vraiment su se saisir de cette opportunité et au moment de l'élargissement d'instaurer un bras de fer avec les États-Unis pour obtenir une égalité de traitement pour les citoyens européens. Ce qui aurait été évidemment compliqué, mais typiquement c'était une opportunité qu'on a laissé passer, me semble-t-il.
Oui, parce que pour les citoyens, les Français, les Allemands, on n'a pas besoin de visa.
Voilà, alors que pour montrer aux Européens d'Europe centrale orientale que quelque part l'Union européenne sait défendre leur intérêt face à un grand partenaire partenaires par ailleurs. Alors après, évidemment, la même chose pourrait décliner sur des questions avec la Russie où les enjeux sont bien différents et beaucoup plus complexes. Et là encore, parfois, le sentiment que certains pays occidentaux préfèrent un dialogue avec Moscou plutôt que de s'intéresser aux intérêts des pays d'Europe centrale, c'est aussi quelque chose qui est assez présent. Et paradoxalement, après, ces pays, pour certains, se tournent aujourd'hui vers la Russie en disant, de toute façon, vaut mieux qu'on traite directement nous avec Vladimir Poutine plutôt que de se faire vendre une fois de plus par l'Ouest à la Russie. C'est aussi un discours qu'on peut entendre en Hongrie, par exemple.
Alors, Maliy Soltowska, à Varsovie, en Pologne, effectivement, deux choses. D'abord, un sentiment forcément un peu différent, puisque la Pologne a disparu de la carte à un certain moment, et la Pologne a retrouvé sa souveraineté politique il y a relativement peu de temps. Est-ce que ça explique un petit peu les difficultés que Varsovie, avec le gouvernement de Kaczynski, a un petit peu avec l'Europe, qui est évidemment une autre histoire?
Oui, certainement. Et ce moment, Daniel, dont vous parlez, il a duré au 19e siècle 132 ans. Donc c'est pas un petit moment. La Pologne est coupée entre la trois puissances, la Russie, l'Empire austro-hongrois et l'Allemagne. Elle reconquiert son indépendance en 1918 pour une vingtaine d'années. Et elle va la perdre juste après la Seconde Guerre mondiale. Elle rentre sous la domination de Moscou. Donc, certainement, Jaroslav Kaczynski joue sur ses émotions. L'indépendance reconquise fraîchement, finalement, en 1990. Elle ne peut pas être vendue facilement, par exemple, pour Bruxelles. Et c'est ainsi qu'on présente ce discours. Trop de domination de Bruxelles, c'est perçu comme une perte de souveraineté. Et sur ces émotions, Kaczynski joue très fort.
Et c'est un petit peu la même chose en Slovaquie. La Slovaquie, c'est un pays jeune qui a une vingtaine d'années. Et donc, évidemment, le sentiment national slovaque, il est forcément fort, puisque le pays existe depuis relativement peu de temps, Pavol Salaj.
Je dirais que, oui, chez nous, il y a des partis nationalistes. On a même un parti néo-nazi au Parlement qui a obtenu environ 8% aux dernières élections législatives. Par contre, je verrais quand même une exception slovaque en Europe centrale. Donc, en comparaison avec la Pologne, l'Hongrie, le gouvernement slovaque actuel et aussi les gouvernements précédents sont loin d'être nationalistes. Et au contraire, le dernier Premier ministre Fico, qui a récemment démissionné, avait comme son opération principale politique d'intégrer la Slovaquie à ce qu'il appelait le noyau européen. Donc les Slovaques se croyaient toujours géographiquement dans le cœur d'Europe, l'Europe au sens large, mais l'actuel gouvernement a repris cette rhétorique de Monsieur Fico et continue, veut intégrer la Slovaquie au noyau politique et économique européen. Et il faut aussi rappeler, je crois, que contrairement à la Pologne ou l'Hongrie, les Slovaques font partie, par exemple, de la zone euro. Donc c'est vraiment, ils sont vraiment intégrés au plus possible actuellement à l'Europe.
Yves Bertoncini, si on reprend 1968, on célèbre 1968 en France et un peu partout en Europe, mais la signification de 68, elle est tout de même pas la même. En Europe occidentale, on célèbre une période marquée par une progression des libertés individuelles, du droit des minorités. À l'Est, eh bien, c'est l'éphémère printemps de Prague suivi par une période de glaciation. Là encore, l'histoire n'est pas la même et ça explique des différences entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest au niveau de la perception des envies et de l'évolution politique et sociétale.
Pour nous, mai 68, c'est plutôt une forme de libération. Et en effet, à Prague en particulier, c'est une oppression.
Et le début d'une glaciation.
Une glaciation. J'étais en janvier à Prague pour d'ailleurs une série de conférences à l'Institut français sur ce thème, hein, 68, la façon dont à Prague et en France, ça ne résonne pas de la même façon. C'était assez frappant de constater cette divergence historique. Notamment, alors, sur un des sujets, le sujet de la souveraineté. Puisqu'au fond, c'est la doctrine Brejnev, mai 68, pour la République tchèque et les autres, qui s'expriment, la souveraineté limitée. Et donc, ça explique bien qu'une fois que, pour le coup, ces peuples se sont libérés de la domination soviétique, ils soient désormais particulièrement sourcilleux sur ces enjeux de souveraineté, certes partagés dans le cadre de l'Union européenne, mais partager sa souveraineté, c'est déjà pas facile pour un pays comme la France, on le voit bien, pour un pays comme le Royaume-Uni, hein, c'est en partie hein, ce souverainisme à l'origine du Brexit, pas seulement. C'est d'autant plus difficile pour ces jeunes États-nations, si je puis dire, qui ont reconquis, je dirais, leur liberté en même temps que leur souveraineté, et qui n'ont pas eu beaucoup de temps avant d'entrer dans l'Union européenne. J'étais aussi à une autre conférence en 2014 à Budapest. Le titre de la conférence, c'était sur la souveraineté, c'est « Après Moscou, Bruxelles ». Point d'interrogation. Mais voyez bien que c'était un questionnement très fort, qui du coup a pris une résonance particulière quand est arrivée la crise des réfugiés, puisque là, non seulement il y a une décision prise de relocalisation des réfugiés à la majorité qualifiée, donc qui a pu être prise sans l'accord de plusieurs pays d'Europe centrale et orientale, mais qui touchait une autre corde très sensible, qui est celle de l'identité. Et puisque nous n'avons pas eu la même histoire, en effet, entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, les enjeux identitaires sont particulièrement à vif. Nous, mai 68 et même avant la colonisation, c'est une progression vers une forme de société multiculturelle. Et dans les pays d'Europe centrale et orientale, ce n'est pas ça, et c'est parfois même l'inverse. Et donc, sur ces deux sujets-là, il faut être particulièrement attentif quand on discute avec ces pays. Ça ne veut pas dire qu'on doit approuver tout ce qui s'y passe, et notamment les dérives vraiment scandaleuses de quelqu'un comme Viktor Orban. Mais quand on constate qu'il gagne haut la main sa réélection, ça doit nous encourager à aller un tout petit peu plus loin dans l'interrogation de ce qui nous unit dans la diversité. Et donc, dans, j'allais dire, le degré acceptable de diversité qu'on peut avoir au sein d'une Union européenne, fondée sur des intérêts, mais aussi des valeurs.
Alors, pour aller un peu plus loin de ce que vient d'exprimer Yves Bertoncini, Lucas Matschek, c'est vrai que le mode de vie des Européens de l'Ouest, plutôt cosmopolite, libéral, qui constitue quand même cette nouvelle identité européenne, par exemple, illustrée par le mariage gay, qui est évidemment accepté partout et en Europe de l'Ouest, et qui évidemment bloque en Pologne, en Hongrie et un peu partout, où on est dans une autre phase un petit peu, peut-être un peu plus matérialiste. Là encore, une différence marquante. C'est pas la même histoire.
Yves a raison. Ce sont des pays qui se sont construits au cours du XXe siècle, d'ailleurs souvent bien malgré eux, comme des États-nations très homogènes de point de vue ethnique. Pour une large partie de la population dans ces pays, c'est devenu quelque chose de positif. Parce qu'en partie, l'histoire tragique du XXe siècle, elle a pu aussi être interprétée, par exemple, notamment en République tchèque ou en Slovaquie ou en Pologne, comme en partie étant causée ou en tout cas renforcée par cette hétérogénéité ethnique, notamment autour de la question de la présence des Allemands et puis le début de la Deuxième Guerre mondiale et tout ce qui allait avec. Autrement dit, bien sûr que si les méthodes qui ont été utilisées sont très tragique et pour la plupart de la population pas forcément défendable aujourd'hui. Le résultat, le fait qu'on ait des sociétés relativement homogènes, c'est quelque chose qui est finalement perçu comme plutôt une bonne chose. Alors que c'est des pays qui traditionnellement étaient effectivement des pays multiconfessionnels, multiethniques, etc. Mais juste si je peux ajouter un tout petit détail sur 1968, parce qu'il y a une autre dimension. C'est qu'en 68 en France, on manifestait pour des idées qui, plus ou moins, sympathiser avec, on va dire, le communisme sous ses différentes variantes. Je veux dire, les leaders du 68 français, c'était des maoïstes, c'était des trotskistes pour beaucoup d'entre eux. C'est exactement l'inverse à Prague. Et c'est ça aussi un problème aujourd'hui. C'est que la mémoire du totalitarisme communiste est asymétrique entre l'Est et l'Ouest. Et par exemple, le discours de Viktor Orban, qui consiste à dire, finalement, il n'y a que moi qui a commencé à décommuniser la Hongrie. Il paraît totalement délirant, bizarre, incompréhensible et antipathique vu de l'Ouest. Alors que c'est plus complexe, c'est moins absurde et moins bizarre vu d'Europe centrale.
Une fracture entre l'Est et l'Ouest, on commence à comprendre qu'elle est complexe. Et on va y revenir, évidemment, dans un instant, juste après un point sur l'actualité, sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Là, tout de suite.
Spotkania europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromi tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour Carrefour de l'Europe, deuxième partie. En Pologne, en Hongrie, en Slovaquie, voire en République tchèque, les gouvernements et les peuples ne se reconnaissent plus dans les valeurs démocratiques des Européens de l'Ouest. Si la crise migratoire a servi de déclic, elle est surtout le reflet d'un désir de repli identitaire des Européens de l'Est, à l'exact opposé du projet européen conduit maintenant depuis 60 ans. Sur 15 pays d'Europe de l'Est, 7 sont gouvernés par des populistes. Alors que peuvent faire Paris, Berlin et les autres Européens de l'Ouest qui prônent une certaine souveraineté européenne plutôt que le retour à un nationalisme étriqué. Europe entre l'Est et l'Ouest, une fracture. Je vous représente les invités qui nous ont rejoints. Lucas Matchek, il est le directeur du campus de Sciences Po Paris à Dijon. Yves Bertoncini, consultant en affaires européennes et président du mouvement européen France. Maja Zaltowska, journaliste et correspondante du quotidien Libération en Pologne. Elle est en ligne de Varsovie. Et Pavol Salaj, journaliste au site Euractiv Slovaquie. Il est en ligne de Bratislava. Avant de reprendre notre débat, nous allons faire un petit détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Joël Le Pavou.
Bonjour Daniel.
Vous êtes le correspondant de Courrier International à Budapest. Alors ce dimanche, aujourd'hui, les Hongrois votent pour élire leurs députés. Il n'y aura pas de surprise, hein, le parti Fidesz, celui de Viktor Orban, remportera haut la main ces élections. Et pour l'éditorialiste de Magyar Idők, c'est évident, car le Premier ministre hongrois est tout à fait en phase avec ses concitoyens.
Tout à fait Daniel, et c'est ce que Agoston Mraz Samuel écrit dans Magyar Idők, donc un journal conservateur qui soutient généralement le Premier ministre Viktor Orban. Et c'est effectivement cette idée que Orban, voilà, met en avant la famille, notamment comme moteur essentiel de la société. Je cite les propos d'Agoston Mraz Samuel. Et que ce soit d'ailleurs du côté d'Orban ou du côté de ses adversaires, ils reconnaissent justement que cette inflexion, ce fait de mettre en avant la famille ou ne pas encourager la discrimination positive, est à mettre au crédit de Viktor Orban et renforce sa sympathie auprès des Hongrois, quelle que soit leur origine.
Alors une autre explication, c'est que les Hongrois perçoivent le Fidesz, le parti de Viktor Orban, comme un parti très moderne, très, très en pointe dans la société européenne.
C'est vrai que le Fidesz en soi est un parti qui inspire aussi en Europe centrale et qui compte près de 30 000 membres actifs, comme le relève l'auteur de l'article, et qui utilise des techniques de campagne et des techniques de communication de pointe. Et c'est non seulement du point de vue du logiciel idéologique, mais aussi du fait que les concurrents hongrois ont un énorme retard, et c'est exactement ce que souligne l'auteur, du point de vue de la communication, et c'est ce retard-là que le Fidesz exploite à merveille.
Alors, on peut en profiter pour rappeler que le Fidesz siège au Parlement de Strasbourg sur les bancs du PPE, le Parti Populaire Européen, aux côtés des Républicains français, de la CDU d'Angela Merkel, pour ne prendre que ces deux exemples, ce qui évidemment est un avantage supplémentaire pour Viktor Orban par rapport à sa population.
Oui, et la plupart des sondages, d'ailleurs, comme le relève l'auteur de l'article, donnent en tout cas Viktor Orban largement gagnant dans le cadre des élections qui auront lieu donc ce dimanche 8 avril. Et un sondage paru donc le lundi 3 avril de la part de l'Institut Républicain montre que le parti de Viktor Orban, donc le Fidesz-KDNP, puisqu'ils sont alliés aux chrétiens-démocrates, obtiendrait près de 41% des suffrages et s'assurerait donc une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et le Fidesz, justement, largue littéralement ses concurrents, puisque les ultranationalistes du Jobbik ne sont qu'à 21%, et les socialistes alliés aux libéraux n'auraient que 19% des suffrages. Et finalement, on préfère voter Viktor Orban et avoir un leader fort qui a une position claire sur l'immigration, puisque c'était un dossier qui était extrêmement prégnant en Hongrie et qui l'est toujours depuis ces trois dernières années, notamment depuis la fermeture de la frontière sud, la frontière avec la Serbie. On préfère avoir un leader fort en Hongrie, un leader avec une vraie parole qui pèse, que des socialistes ou des libéraux qui exauceraient les desiderata de Bruxelles.
Merci Joël Le Pavou, Courrier International, l'Hebdo et courrierinternational.com, le site. Alors Yves Bertoncini, dans ce que vient de nous expliquer Joël Le Pavou, il y a deux idées qui reviennent. D'abord l'émigration qui a été un traumatisme pour tous ces pays, et puis deuxièmement l'idée que Bruxelles ne doit pas nous dire ce qu'on doit faire, on doit gérer notre pays comme on l'entend.
Oui, en effet, mais il faut quand même opérer une distinction sur l'afflux de demandeurs d'asile. La Hongrie a connu un afflux massif de demandeurs d'asile, puisque, suite à la décision d'Angela Merkel d'indiquer qu'elle souhaitait les accueillir, la route des Balkans s'est ouverte, et en effet, en gare de Budapest, il y a eu des scènes de chaos, et puis, sur le territoire hongrois, il y a eu un nombre de demandes d'asile qui, si on le rapporte à la population hongroise, est bien supérieur à ce qui s'est passé en France, par exemple. Mais si on regarde en revanche les trois autres pays, il n'y a eu absolument aucun afflux de demandeurs d'asile en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie. D'ailleurs, ces pays devraient être un peu plus détendus. Les demandeurs d'asile ne veulent pas y aller. Simplement parce qu'ils préfèrent aller en Allemagne, en Suède, où il y a du travail, où la langue est plus facile, enfin pour plein de raisons, où il y a des diasporas, etc. Mais ça a rencontré un écho populaire, cette crainte, précisément de ce qu'on ne connaît pas, même si elle était largement virtuelle. Parce que d'abord, des leaders politiques, et pas seulement Viktor Orban, Robert Fico, effectivement, en Slovaquie, il faut le rappeler, qui étaient en perte de vitesse, les deux, hein, Viktor Orban était en perte de vitesse dans les sondages, ont attisé les braises. Mais c'est vrai que ça a rencontré un écho populaire. Et s'agissant de Bruxelles, ça a été amplifié par cette décision de relocalisation des réfugiés, prise à la majorité qualifiée. La Pologne et la Slovaquie ont porté l'affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne. Elles ont naturellement été déboutées parce que tout a été fait dans les règles. Maintenant, si on continue en tout cas à vouloir contraindre ces pays à accepter de force des demandeurs d'asile, et c'est absurde, qu'ils n'ont aucune envie d'aller chez eux, eh bien on attisera encore plus les crispations sur l'identité et la souveraineté qu'il s'agit de respecter dans l'Union européenne, mais aussi de partager.
Le Kosmatchek, une des caractéristiques de tous ces pays d'Europe centrale et orientale, c'est qu'ils connaissent une démographie déclinante, d'une part, et ils ont tous connu une forte émigration, notamment vers les pays de l'Europe de l'Ouest, avec peut-être cette sensation de un risque de disparaître. Alors on dit par exemple que la population de la Bulgarie devrait diminuer de 27% d'ici 2050, ce qui est évidemment considérable. C'est évidemment à prendre en compte dans cette fracture que l'on constate entre l'Est et l'Ouest de l'Europe.
En fait, dans toute cette affaire, on nage en plein fantasme, ou plutôt en toute une série de fantasmes. Par exemple, ce fantasme de la disparition de la nation, effectivement, c'est quelque chose qui existe. Hein. Déjà, dans les années 70, Kundera, dans son fameux essai sur l'Occident kidnappé, explique que la spécificité des nations d'Europe centrale, c'est que ce sont des nations qui savent que leur existence ne va pas de soi, qui peuvent disparaître, chose que, a priori, les Français ne discutent pas trop, ou en tout cas pas à court moyen terme. Un autre fantasme, c'est cette fameuse décision européenne sur la relocalisation. Il n'y a pas très longtemps, un journal tchèque a fait une enquête auprès des députés membres de la commission Affaires européennes de la Chambre des députés tchèques, en leur posant des questions précises, techniques sur ce texte. À peu près 90% ont répondu faux, c'est-à-dire ils étaient en plein fantasme, c'est-à-dire ils pensaient, comme l'immense majorité de leurs concitoyens le pensent, à cause d'une communication politique désastreuse du côté des pro-européens et très astucieuse et complètement cynique de la part des anti-européens, pour schématiser, ils croyaient qu'effectivement c'était une décision sur la base desquelles Bruxelles nous enverrait autant de migrants qu'il voudrait, qu'ils soient politiques, économiques, et que ça serait une décision. Alors que ce que dit cette décision, c'est qu'effectivement on se repartit les demandeurs d'asile dont les demandes sont ensuite examinées par les États qui restent libres de décider s'ils les accordent ou pas. Tout ça sur des effectifs très faibles, sur trois pays, je crois, qui ont été éligibles à ce programme. Autrement dit, on en a fait une espèce de règle générale qui pourrait engendrer des flux massifs de localisation des migrants sur le territoire, en l'occurrence de la République tchèque, alors qu'on était quand même très loin. Mais là encore, tout le monde finalement se bloque sur des questions de principe. Donc d'un côté, il y a ceux qui disent pas un seul migrant, même s'il ne devrait être que 10, par principe, on n'en veut pas. Et de l'autre côté, effectivement, il y a une crispation du côté de la Commission européenne de dire c'est une question de solidarité, ces pays-là doivent en faire preuve. Et donc, et on le voit bien avec des cas un peu absurdes comme la Slovaquie qui a effectivement fait le geste en acceptant quelques dizaines, je crois, de migrants. Du coup, la Commission ne la poursuit pas. Alors que le discours politique des dirigeants slovaques est strictement identique à celui de leurs voisins. C'est juste qu'ils ont été un tout petit peu plus astucieux et ils ont trouvé une solution qui ménage la chèvre et le chou.
Mathieu Zoltowska, est-ce qu'il n'y a pas une forme de schizophrénie en Pologne? Mais la question pourrait se poser dans les autres pays d'Europe centrale et orientale. Car si on regarde la situation en Pologne, la Pologne profite bien de son adhésion à l'Union européenne. Le niveau de vie a augmenté. L'économie tourne à plein régime, donc tout ça, ça marche plutôt bien. Et en même temps, il y a une espèce de peur, de rejet de l'Union européenne. Est-ce que le mot schizophrénie à l'égard de la Pologne et des Polonais vous paraît justifié ou un peu excessif?
Oui, je pense que oui, parce qu'en même temps, la Pologne a énormément d'avantages des fonds européens, des fonds de cohésion. La Pologne a fait un pas en avant sur les infrastructures, sur les routes, etc. Et les Polonais restent fondamentalement pro-européens. Et ce refus de Bruxelles est aussi perçu par l'Allemagne. Il y a toujours une certaine germanophobie en Pologne qui s'explique par son histoire. La Pologne voit l'Union européenne comme l'Union européenne gouvernée par l'Allemagne, par Berlin, par Merkel. Donc c'est aussi un fantasme, une phobie qui explique que peut-être cette schizophrénie, tout ce qui est imposé par l'Union européenne, c'est comme si c'était imposé par Berlin.
Et en petite référence, qui aurait pu être imposée par l'Union soviétique et par Moscou, on comprend l'idée. Pavol Salaj, dans un pays comme la Slovaquie, qui est un pays, petit pays, 5 millions d'habitants, c'est-à-dire 1% de la population européenne, l'Union européenne, 500 millions d'habitants, avec, si on compte encore les Britanniques qui sont là pour l'instant, comment voit-on les choses? Est-ce qu'on a un peu la peur d'être un trop petit pays, de ne pas réussir à faire entendre sa voix? Est-ce que là encore, il y a aussi peut-être une forme de schizophrénie de la part d'un pays comme la Slovaquie, de son leader Robert Fico?
Alors oui, il y a une énorme schizophrénie en Slovaquie qui se manifeste dans le paradoxe entre toutes les aides économiques que la Slovaquie a reçues d'un côté et une rhétorique anti-européenne de l'autre côté des dirigeants politiques. Mais il faut aussi dire que cette rhétorique anti-européenne, elle n'est pas permanente, c'est plutôt occasionnel, en tout cas en ce qui concerne le gouvernement, le dernier gouvernement slovaque. Et elle concerne surtout ce qu'on pourrait appeler des exceptions culturelles slovaques. Donc oui, l'ancien premier Fico a refusé les quotas migratoires en disant que on ne veut pas une communauté musulmane en Slovaquie. Et aussi, par le passé, on a vu que la Slovaquie, elle a mis beaucoup l'accent sur les racines chrétiennes de l'Europe. Elle a voulu que ça soit inscrit dans la constitution européenne. Donc oui, il y a cette schizophrénie, mais de manière générale, les gouvernements slovaques sont assez pro-européens. Et ils ont un énorme soutien de la population. Par exemple, j'ai vu dans le dernier baromètre européen, 80% des Slovaques soutiennent l'adhésion à l'euro contre la moyenne européenne à 61%. 80% des Slovaques sont un citoyen européen contre la moyenne européenne à 70%. Les Slovaques sont pas européens et leur gouvernement aussi sont relativement pro-européens.
On comprend bien le paradoxe que l'on voit à Bratislava comme à Varsovie.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe, en Europe, une fracture entre l'Est et l'Ouest. Nous sommes avec Lucas Matchek, directeur du campus de Sciences Po Paris à Dijon, avec Yves Bertoncini, président du mouvement européen France, avec Maja Zoltowska, journaliste correspondante du quotidien Libération en Pologne, avec Pavol Salaj, journaliste du site Euractiv Slovaquie. Yves Bertoncini, les partis populistes qui sont très présents en Europe centrale et orientale, que ce soit en Pologne ou en Hongrie, pour prendre deux cas très marquants, il y a dans tous les cas de figure, une remise en cause de l'état de droit, une justice de plus en plus à la solde du pouvoir en Pologne, un contrôle des médias très poussé en Hongrie, pour ne prendre que ces deux exemples, et l'Union européenne est un petit peu prise au dépourvu. Elle n'a jamais imaginé un cas de figure où finalement l'état de droit ne serait pas respecté par un pays membre de l'Union européenne. Alors elle a déclenché ce qu'on appelle parfois l'arme atomique, c'est-à-dire l'article 7 du traité de l'Union européenne, qui pourrait lier l'obtention des fonds européens et la Pologne, comme la Hongrie, comme la Slovaquie, comme la République tchèque, en reçoit beaucoup. Et ces aides, cette obtention des fonds européens, pourraient être mises en cause si l'état de droit n'est pas respecté.
Alors, il y a ce que vous appelez l'outil de dissuasion de l'article 7, qui peut, s'il était validé, conduire à la suspension des droits de vote, mais qui ne sera pas validé, puisqu'il suffit qu'un pays protège le pays incriminé. Exemple, si on veut sanctionner la Pologne, la Hongrie ne vote pas, ou vice-versa, pour que cette arme de dissuasion nucléaire soit en réalité un pétard mouillé. Et puis il y a une autre idée qui est de subordonner en effet la délivrance des fonds structurels au respect de l'état de droit. Je ne crois pas que cette idée prospérera, je ne crois pas qu'elle soit fondamentalement bienvenue, parce que elle va accroître la crise de copropriétaires à laquelle on assiste. Les fonds structurels ne sont pas une aumône, c'est quelque chose qui fait partie d'un paquet global, les quatre libertés qui profitent quand même beaucoup à l'Allemagne, à la France, y compris dans ces pays. Hein. On voit beaucoup de produits français vendus en Pologne et en Hongrie. On voit pas beaucoup de produits hongrois et polonais vendus en France. En compensation, pour leur permettre de converger, ce qui est aussi notre intérêt, on leur a donné des fonds structurels. Donc je crois pas qu'il faille lier les deux. La réprobation, elle doit être politique, elle doit être diplomatique. La pression doit s'exercer. Moi, je trouve ça complètement ahurissant que le président du Parti Populaire Européen, Joseph Daul, envoie tous ses vœux d'encouragement à Viktor Orban comme si de rien n'était, alors que Viktor Orban tient des propos xénophobes, semi-antisémites, pour se faire réélire. Donc il faut une pression politique, il faut pourquoi pas, mais correctement, qu'on s'explique entre États membres, hein, sur un pied d'égalité, mais on a bien le droit de se dire que sur certains sujets, on n'est pas d'accord. Il peut y avoir des formes de représailles diplomatiques aussi. Hein, dans certains dossiers européens, alors là, je reviens au fonds structurel, on peut faire comprendre qu'il y en aura peut-être moins, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que de
les supprimer.
Voilà, c'est autre chose. Et puis, je crois qu'en dehors de ça, il faut au moins deux autres élans, si je puis dire. D'abord, il faut mieux qu'on se connaisse. On ne se connaît pas, en réalité, pas très bien. Cette émission contribue à faire qu'on connaisse un peu mieux les Polonais, les Tchèques, les Slovaques, l'histoire, la géographie de ces pays. Il y a un grand déficit. Lucas disait tout à l'heure qu'il y a eu un déficit narratif sur l'élargissement, mais il y a même un déficit sur qui nous sommes, qui sommes-nous. On partage une maison commune, comme des copropriétaires justement, mais on ne se connaît pas. Donc ça, c'est une des premières choses à faire. Et la seconde, alors là, oui, c'est un discours que d'ailleurs Emmanuel Macron tient, d'une certaine manière, sur la souveraineté et l'identité européenne. C'est-à-dire que on est unis dans la diversité, il faut mieux connaître notre diversité, certes, mais il faut aussi essayer de se dire, est-ce qu'au fond, on n'a pas intérêt à partager notre souveraineté face à des grands défis comme l'agressivité russe, le changement climatique, la montée en puissance de la Chine, les flux migratoires incontrôlés, et les enjeux sécuritaires, et ainsi de suite, d'une part, la souveraineté partagée, mais aussi un travail sur l'identité. Il ne faut pas laisser l'identité aux xénophobes. Il y a une identité française, une identité hongroise, une identité polonaise qu'on peut toujours exalter si on le souhaite, mais il y a aussi une forme d'identité européenne. Surtout si on compare avec les Chinois, avec les Nigérians, avec les Brésiliens. Et il faut aussi qu'il y ait un travail, qu'encore une fois Emmanuel Macron essaie de faire, sur l'identité, ce qui nous unit, j'allais dire, dans la diversité, certes, plutôt que ce qui nous divise. Donc, non pas seulement moins d'actes qui peuvent nous diviser, et qui sont vus comme des actes coercitifs, je dirais, de la part de Bruxelles, de Berlin ou d'ailleurs, mais plus de prise de position pour souligner ce qui nous unit. Et je terminerai là-dessus. Il y a d'ailleurs eu, après le référendum favorable au Brexit, un sommet à Bratislava, avec une déclaration de Bratislava qui résumait en fait ce pourquoi nous sommes ensemble, pourquoi nous avons intérêt, nous Européens, à 27, à continuer l'aventure. Eh bien, je crois qu'il faudrait relire cette déclaration, qui n'est certes pas parfaite, mais qui est consensuelle et qui explique pourquoi nous Européens avons un destin commun et que nous devons continuer à le partager encore plus, hein, dans ce monde extrêmement instable, dont nous ne sommes plus du tout le centre et où nous ne pesons plus que 5 ou 6% de la population.
Alors, il y a un thème chien à Viktor Orban, on va revenir un peu sur lui, puisque les Hongrois votent aujourd'hui, c'est la contre-révolution culturelle. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, dit « Avant, il y a quelques années, notre avenir c'était l'Europe, aujourd'hui nous sommes l'avenir de l'Europe sur nos positions, et notamment sur cette contre-révolution culturelle ». Quand il parle de contre-révolution culturelle, Viktor Orban, il parle de quoi ?
Il part de ce qu'il a pu appeler aussi une approche illibérale, mais je crois que là-dessus, il faut dire une chose très importante, parce que depuis le début de cette émission, on parle des pays comme si c'était des blocs, et c'est pas vrai. Et en fait, ce mouvement illibéral, il traverse les sociétés européennes, est comme ouest.
Et je crois que souvent, en parlant des populismes en Europe centrale, on oublie un peu vite qui a gagné les élections en Italie, on oublie un peu vite comment un pays incroyablement pro-européen fondateur qui étaient les Pays-Bas ont évolué ces 20 dernières années dans leur politique européenne, dans leur attitude à la construction européenne. On oublie les chiffres de premier tour en France, qui sont quand même pas non plus brillantissimes pour l'adhésion au projet européen, même si le deuxième tour a masqué cette réalité ou a caché cette réalité. Donc je pense que on se trompe en croyant que ce clivage Est-Ouest est le clivage structurant. Non, le clivage structurant, d'ailleurs, on pourrait parler du Brexit aussi, c'est qu'il y a une partie des sociétés partout en Europe, et d'ailleurs partout en Occident, parce qu'on pourrait parler de Donald Trump aussi, qui sont déboussolés dans le contexte actuel. Alors c'est lié à la mondialisation, c'est lié à une évolution rapide de la société, par exemple sur les questions de société. Dans 20 dernières années, sur les questions de famille, par exemple, il y a eu une évolution très rapide par rapport à des choses qui, pour certaines personnes, touchent au plus profond de leurs convictions et qu'ils ont du mal à suivre, que ce soit l'homoparentalité, que ce soit des choses comme ça. Et effectivement, dans les pays d'Europe centrale, ça trouve un écho peut-être plus important. La jeunesse des démocraties de ces pays font qu'elles résistent peut-être moins, que la société civile résiste peut-être moins bien à ça, et du coup, plus facilement, ces forces-là arrivent au pouvoir. Mais, encore une fois, regardons ce qui se passe en Italie. Donc je crois qu'il faut aussi bien voir qu'il y a vraiment un clivage qui d'ailleurs souvent avoisine un clivage 50-50, où ça se joue à très peu de choses, et le problème, en fait, il doit être pris de ce point de vue-là, et c'est pour ça que je suis d'accord avec Yves, qu'il y a, par exemple, un travail énorme à faire au sein des partis politiques européens. Parce que on a parlé du PPE de Viktor Orban, mais en fait, chaque grand parti politique européen a un cousin un peu honteux. Hein, les socialistes, ils ont les socialistes bulgares qui disent parfois des choses pas très socialistes.
Pas très socialistes, non, ouais.
Notamment, par exemple, sur la question des homosexuels, des droits des homosexuels, etc., mais sur d'autres sujets aussi. Les libéraux, ils ont Andrei Babiš, l'oligarque tchèque, qui est quand même un personnage ambigu, problématique aussi. Donc voilà, il y a un travail de construction et quelque part un ménage politique à faire un peu partout, et le fait de se dire oh là là, c'est encore ces pays d'Europe centrale qui sont un peu arriérés, qui sont pas mûrs pour la démocratie, etc., c'est une façon de se leurrer et à mon avis de passer à côté d'un sujet essentiel du moment, qui est une vague anti ou illibérale comme on veut, qui effectivement fait des ravages particulièrement forts en Europe centrale, mais qui est très puissante à l'Ouest aussi. Et encore une fois, Brexit, par exemple, c'est pas une petite affaire. Et pour moi, c'est un élément qui s'inscrit tout à fait dans cette vague-là.
Et Bertrand Giné, on arrive au terme de l'émission. Est-ce que cette fracture dont on vient d'expliquer, enfin j'espère qu'on a réussi à la faire comprendre à nos auditeurs qu'elle est complexe, qu'elle est historique, qu'elle est sociétale, est-ce qu'elle est finalement porteuse de tous les dangers pour l'Union européenne, ou comme on le dit, l'Union européenne s'est grandi dans la crise, c'est une crise et on la surmontera.
Je crois que pour filer la métaphore médicale, le Brexit c'est une amputation hein, qui va avoir lieu, on va couper un bras, c'est dommageable, ils l'ont décidé, c'est possible, hein. C'est d'ailleurs bien pour ça que faut pas confondre l'Union européenne et l'Union soviétique, hein. On peut sortir, hein. C'est pas une prison des peuples. Mais que pour le reste, vous parlez de fracture, c'est douloureux une fracture, mais ça ne préjuge pas de futures amputations. Je ne crois pas que tous les peuples dont on vient de parler veulent quitter l'Union européenne, mais s'ils y restent en n'étant pas d'accord...
Alors on peut même signaler l'Institut Jacques Delors, que vous avez très bien connu à une autre époque, Yves Ortenchenny, vient de sortir un papier où on constate que l'adhésion à l'Union européenne, elle est très forte chez les peuples d'Europe centrale, ce qui est évidemment encore une contradiction supplémentaire.
Absolument, et pour faire écho à ce qu'a dit Lucas sur l'élection présidentielle française, je crois que même en France, on a vu la différence entre l'europhobie, c'est-à-dire on déteste tellement l'Europe ou l'euro qu'on veut en sortir, et cette idée est totalement minoritaire en France, Marine Le Pen a payé pour le savoir, et l'euroscepticisme, et même les euroscepticistes, il y a beaucoup d'euroscepticistes, mais qui se répondent sur les crises migratoires. Je pense qu'en Allemagne, il y aurait des gens qui auraient voulu qu'il y ait plus de solidarité montrée de la part des pays d'Europe centrale, et à l'inverse, les pays d'Europe centrale étaient rétifs à accorder cette solidarité. Donc ça, c'est un défi redoutable pour les Européens, puisqu'ils restent ensemble, mais ils se querelle. Et donc, pour en sortir, c'est évidemment pas facile, il faut mieux se connaître, mieux se comprendre. Et puis surtout, regarder par la fenêtre de notre maison commune, parce que tous les défis qui nous assaillent, et pas seulement le défi migratoire, d'autres défis climatiques, russes et autres, requièrent davantage d'unité, parce que, pardon, l'Union fait la force. Et je crois que les Européens, au fond, en sont plutôt convaincus, pour autant qu'on y mette les formes, hein, dans la façon dont on construit cette Union européenne, dans la diversité de nos histoires et de nos peuples.
Lucas Matcha, vous vouliez dire juste un mot peut-être?
Juste un mot, qu'il y a aussi une question d'exemplarité de l'Occident. C'est-à-dire l'Occident, c'était l'exemple, le modèle absolu, et en partie aussi aujourd'hui, on assiste à une déception de ça. Et par exemple, je pense que toute cette affaire sur la crise migratoire aurait été bien différente si, par exemple, les modèles d'intégration des populations immigrées dans les pays occidentaux étaient des modèles absolus, admirés, magnifiques. Or, on voit bien qu'il y a des problèmes. De même, donner des leçons de solidarité et de bonne européanité, si je puis dire, aux pays d'Europe centrale, lorsqu'on s'appelle Angela Merkel et on prend des décisions unilatérales en mettant les autres Européens devant fait accompli, comme elle a fait dans la crise migratoire, comme elle a fait sur la sortie nucléaire, comme elle a fait sur d'autres sujets, ça pose aussi un problème. Donc je pense aussi qu'il y a une question, il faut aussi que les leaders occidentaux, d'une certaine manière, redeviennent des leaders qui sont exemplaires, qui ont une capacité d'entraînement des autres. Et aujourd'hui, il y a un problème de leadership de ce point de vue-là.
Merci, c'est le mot de la fin. Merci à tous les cas d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Muni avec Maria Fonso, Joël Lepavou de Courrier International et la complicité de Thomas Massé. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités pour écouter ce Carrefour de l'Europe et tous les autres. RFI.fr, rubrique émission, ou les applis de RFI, tout spécialement la petite dernière RFI Pure Radio. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desescales, où que vous soyez, à Varsovie, Bratislava, Paris ou Dijon, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.